Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce culte, pour ce temps, Seigneur, de louange, d'adoration que nous avons passé aussi. Merci aussi pour cette occasion que nous avons d'entendre ta parole, qui est la vérité. Seigneur, tu veux ouvrir nos cœurs, tu veux illuminer par ton esprit, Seigneur, notre être tout entier, afin que nous puissions recevoir ce message que tu veux nous transmettre aujourd'hui. Seigneur, donne à ton serviteur d'être clair et que chacun puisse être touché, être encouragé, être enseigné. Et que nous puissions aussi prendre des résolutions, Seigneur, suite à ce message pour l'avancement de ton règne, pour notre édification personnelle aussi et pour l'édification de ton Église. Fais silence en nous, Seigneur, afin que nous puissions vraiment être disposés à t'écouter dans le nom de Jésus. Amen. Bien, bonjour à tous. Avec Nyarintsu, nous sommes heureux d'être de nouveau parmi vous, après presque 2 mois d'absence. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons passé la majeure partie de l'été à Madagascar. En l'occurrence, à Madagascar, ce n'était pas l'été, c'était plutôt l'hiver. Et la première partie de notre séjour a été assez studieuse, puisque elle a été rythmée par des enseignements, par des séminaires. Et ensuite, on a essayé de consacrer du temps aussi pour la famille, la grande famille, nos parents qui sont encore à Madagascar, qui sont âgés. Et après, nous sommes allés aussi, nous sommes revenus en France il y a 10 jours. Nous sommes repartis aussitôt à Marseille pour voir nos enfants et nos petits-enfants que nous ne voyons pas souvent. Et de nouveau, nous voici parmi vous avec joie, la joie de revoir toute l'Église. En tout cas, j'espère que chacun aura profité de cet été. Alors, je ne sais pas s'il est fini ou s'il continue encore un peu, mais en tout cas, que chacun aura profité pour se ressourcer, pour se reposer, afin de faire face à la rentrée qui est là. La vie trépidante qui nous attend à nouveau, n'est-ce pas ? Alors ce matin, je vous invite à lire un passage dans 1 Timothée. Donc je vais demander à Nicolas de projeter les paroles de ce texte. 1 Timothée au chapitre 1, versets 1 à 7. Donc la version qui est que vous voyez projetée est la version du semeur. 1 Timothée 2. Versets 1 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Je recommande en tout premier lieu que l'on s'adresse à Dieu, des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Jusque-là, notre lecture de ce matin. Alors d'abord, quelques éléments de contexte par rapport à ce passage. Timothée est ce jeune homme qu'affectionne particulièrement l'apôtre Paul, qu'il considère un peu comme son fils spirituel. Donc Timothée a été délégué par l'apôtre Paul, donc, auprès de l'église d'Éphèse, afin de poursuivre l'œuvre de Paul, son œuvre donc, afin de garder le bon dépôt. C'est le terme qui est utilisé dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 20. Garder le bon dépôt, c'est-à-dire garder intacte la saine doctrine qui a été transmise par Paul. Et donc pour Timothée, c'est une tâche délicate, parce qu'il est en même temps dans un contexte difficile, puisqu'il y a, on voit dans le chapitre 1 de cette première épître, la présence de faux docteurs, de faux enseignements, donc qui tordent un peu le vrai sens du message de l'Évangile. Et dans cette première épître, l'apôtre Paul donc donne des instructions précises, et notamment il donne des directives à Timothée pour diriger le culte public dans l'Église. Donc. Et dans ce chapitre 2, entre autres directives, donc la première partie de ce chapitre en tout cas, il rappelle à Timothée une des activités essentielles qu'il doit promouvoir au sein de l'Église, à savoir la prière. La prière, et notamment la prière communautaire, la prière collective. Et donc le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est la prière dans l'Église. Et je propose de développer ce message en abordant quelques questions relatives donc à la prière communautaire, d'en tirer des enseignements, des exhortations, aussi des résolutions dans notre église locale de Palaiseau. Alors, première question qu'on peut se poser, quelle place donner à la prière dans l'Église? Quelle place donner à la prière pendant nos cultes, par exemple, pendant les études bibliques, pendant les réunions de groupe de maison, les réunions du groupe de dames, les réunions des anciens, des diacres, etc., etc. Les répétitions de fêtes de Noël aussi font partie des activités de l'Église. Et là, l'expression que Paul utilise au début de notre lecture, c'est ce terme « je recommande en tout premier lieu ». Donc là, il y a une insistance sur le caractère prioritaire de la prière. En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les hommes. Et donc il affirme, l'apôtre Paul, que la mission de l'Église est de mettre la prière au sommet des activités. Une église qui ne prie pas est une église en grand danger. En 2014, donc il y a 3 ans de ça, nous avions effectué avec Nyarinsu un remplacement pastoral pendant tout le mois d'août à Orthez. Pour ceux qui connaissent la ville d'Orthez, c'est dans le sud-ouest, de la France, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et donc c'est une église, en fait, pour ceux qui connaissent, avec une moyenne d'âge qui est assez élevée. Beaucoup de têtes grises, on va dire. Hein. Et nous avions donc un ministère pastoral, la responsabilité de la vie d'église, les visites des personnes âgées notamment, qui étaient souvent éprouvées par la maladie, par la solitude, l'isolement. Et comme à Madagascar avant, nous avions l'habitude de fréquenter une église plutôt jeune, nous avions une certaine appréhension d'avoir toutes ces personnes assez âgées, et on s'attendait à rencontrer une église peut-être fragile, découragée par les épreuves. Ça, c'était la première appréhension qu'on a eue. Mais en fait, nous avions été impressionnés par la foi des personnes âgées. Vraiment. Il y avait un petit groupe de personnes qui se réunissaient fidèlement avant le culte, moyenne d'âge 90 ans. Avant chaque culte pour prier, alors ils priaient pour la paix dans le monde, ils priaient pour les malades, pour la conversion des gens, ils priaient pour les missionnaires, etc., etc., avec leur voix chevrotante, mais ils priaient vraiment de manière fidèle, de manière persévérante. Et ils n'avaient plus la force physique de faire du porte-à-porte ou de distribuer des traités sur la voie publique, mais ils étaient réguliers, ils étaient fidèles dans le ministère de la prière. Et c'est ainsi qu'on s'est aperçu qu'une église qui a une moyenne d'âge, on dit respectable, n'est pas forcément une église moribonde. Notre Seigneur nous appelle à servir, à prier, à tout âge, avec la force que nous avons. Donc, quelle place donner à la prière? La réponse, c'est une place de choix, une place prépondérante. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est quel genre de prière? Alors, au verset 1, Paul énumère tous les types de prières possibles. Demande, prière, supplication, remerciement pour tous les hommes. Mais nous voyons qu'au verset 2, Paul semble mettre plus particulièrement l'accent sur la prière d'intercession. Qu'est-ce que la prière d'intercession ? C'est cette prière qui consiste à effectuer auprès de Dieu une demande en faveur de quelqu'un. C'est ça la prière d'intercession. C'est une prière qui est motivée par un désir sincère de voir le Seigneur agir. Et dans les prières d'intercession, la motivation et la solidarité avec le sujet de prière est particulièrement important. Donc, si vous priez, si vous intercédez pour quelqu'un, il faut se poser un certain nombre de questions. D'abord, est-ce qu'on veut sincèrement que Dieu intervienne ? Est-ce que nous sommes solidaires avec le sujet que nous présentons devant Dieu ? C'est-à-dire qu'est-ce que nous sommes de tout cœur avec la personne pour qui nous intercédons devant le Seigneur ? Et est-ce que nous croyons que Dieu est suffisamment puissant pour nous exaucer au-delà de nos attentes ? Voilà le type de questions qu'il faut se poser quand on prie, notamment quand on prie en faveur de quelqu'un. Dans la Bible, il y a des prières d'intercession remarquables. Celle qu'adressa Abraham à l'Éternel, peut-être que vous connaissez dans Genèse au chapitre 18. Abraham a intercédé pour sauver la population de Sodome et Gomorre, n'est-ce pas ? Il a prié le Seigneur, il a demandé, est-ce que tu peux sauver telle personne, cette population ? Il y a également des multiples intercessions de Moïse en faveur du peuple d'Israël, après les péchés du peuple. Et Moïse a intercédé afin que Dieu ne détruise pas le peuple d'Israël. Donc ces grands hommes de la Bible, il y en a d'autres aussi, Daniel, mais ces grands hommes de la Bible étaient parfaitement, encore une fois, ils étaient parfaitement solidaires avec leur sujet de prière. Et voilà la véritable prière d'intercession, la solidarité avec les sujets. Et que dire des prières du Seigneur Jésus ? Qui est l'exemple le plus parfait de l'intercession, il a intercédé pour le salut des coupables, des pécheurs, en souffrant lui-même comme victime expiatoire, une victime pour expier les péchés à la croix. Voilà l'intercession par excellence, cette prière a donné sa vie pour les autres. Donc, quel genre de prière ? Toutes sortes de prières, bien entendu. Mais là, dans le contexte de 1 Timothée au chapitre 2, il semble y avoir un accent particulier sur la prière d'intercession. Ensuite, la troisième question, pour qui doit-on prier ? Intercéder en faveur de quelqu'un, d'accord, mais pour qui ? Et là, Paul précise, affirme en tout cas sans ambiguïté, qu'il faut prier pour tous les hommes, sans exception. Donc la visée, elle est très large. Elle n'exclut personne. Et Paul précise ensuite une catégorie, une autre catégorie spécifique d'hommes, celle des autorités, en particulier les autorités politiques, donc celles qui gouvernent. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on prie assez pour nos autorités ? Ici en France, par exemple. Alors pour ceux qui s'intéressent un peu à la politique, ils auront certainement noté un effet marquant dans les informations, c'est la baisse de popularité de certaines personnalités qui sont au pouvoir. Face aux réformes qui ne sont pas toujours populaires, on peut comprendre la grogne. On peut comprendre un peu le mécontentement de la population qui s'attend à une amélioration au niveau de niveau de vie, meilleure sécurité, la baisse du chômage, etc. Et quand ces éléments ne sont pas au rendez-vous, bien on grogne. Mais en tant qu'Église, notre première responsabilité, chers amis, c'est d'abord de prier pour nos autorités. Vous savez, à l'époque où écrit l'apôtre Paul, c'est l'Empire romain qui est la puissance dominante. Et vraisemblablement, selon les historiens, l'empereur qui est en place s'appelle Néron. Néron est connu pour sa cruauté, pour sa folie même, pour son hostilité, notamment envers les chrétiens. Donc c'est pas facile de prier pour de telles autorités. Paul, il a lui-même connu Il a même été victime de l'Empire romain, il a connu les affres de la prison. Mais il sait que les autorités sont là par la volonté de Dieu. Et sans rancune, il recommande à ce que l'on prie pour tous les hommes, à commencer par ceux qui détiennent le pouvoir. Donc c'est un encouragement pour nous, prier pour les autorités qui sont en place. C'est Dieu qui les a mis en place dans sa souveraineté. Notre devoir est de prier pour les autorités. Dernièrement, je me suis laissé aller à des critiques envers le chef de l'État, non pas de France, mais de Madagascar. Quand j'étais à Madagascar, on voyait malheureusement la pauvreté. Hein, elle est là. Et je ne pouvais pas supporter que le président déclare, par exemple, que tout va bien, alors que visiblement tout va mal. Je ne juge pas, hein, mais là, je me suis laissé aller sur des... Oui, on peut appeler ça quand même un jugement. Mais Nyaritsu, donc ma femme, m'a rappelé avec sagesse que mon rôle n'était pas de critiquer, mon rôle n'était pas de condamner, mon rôle n'était pas de juger, mais avant tout de prier pour les autorités. Donc, nous sommes tous encouragés à prier pour les autorités. Donc, pour qui doit-on prier ? Pour tous les hommes, particulièrement. Pour les autorités, mais d'une manière générale, pour tous les hommes, sans distinction de race, sans distinction de religion, de rang social, etc. etc. Alors, pourquoi prier ? Ça, c'est la quatrième question qu'on peut se poser ce matin. Il y a au moins trois raisons pour lesquelles la prière communautaire, l'intercession est importante. D'abord, parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est la parole qui le dit, qu'on vient de lire. Voilà, au verset 3, ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Alors, on se plaint souvent de ne pas connaître la volonté de Dieu, n'est-ce pas ? Mais au moins, il y a quelque chose dont on peut être sûr. C'est que prier pour tous les hommes, ça, c'est bon et agréable à notre Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si nous prions pour tous les hommes, nous faisons une activité que Dieu aime, qu'il apprécie. Donc, c'est la volonté de Dieu. Deuxième raison, parce que Dieu veut le salut de tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, verset 4. Donc, non seulement c'est bon et agréable à Dieu, mais Dieu veut aussi que tous soient sauvés. Donc, Paul fait un appel à la prière, l'intercession, en rappelant que nous prions un Dieu qui veut le salut de tous. Un message, donc c'est le message du salut, est un message qui a une portée universelle. Et là, Paul souligne cette affirmation comme pour mettre en garde contre la tentation de prier uniquement pour celles et ceux qu'on juge dignes d'être sauvés. Ça, c'est une tentation. La tentation aussi, par exemple, d'écarter d'office une certaine catégorie de personnes dans nos prières. Effectivement, on pourrait être réticent à prier pour le salut des meurtriers de sang-froid, qui n'ont aucun scrupule à semer la mort, à tuer, à torturer, à violer. Ça me fait penser à ces actes de terrorisme qu'ont connus certains pays, il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés, même les méchants, même les meurtriers. Qui sommes-nous pour estimer que telle catégorie de personnes ne mérite pas le salut, alors que Dieu lui-même veut que tout le monde soit sauvé ? La parole dit que Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais au contraire, il souhaite qu'il se repente et vive. Vous retrouvez cette parole dans Ézéchiel chapitre 33. Personne n'est inaccessible à l'amour de Dieu, ni indigne de l'amour de Dieu. C'est vrai que la tentation est grande quand on voit des gens qui insultent la parole de Dieu, qui insultent les chrétiens, qui sont méchants. Peut-être on a envie de se dire quelque part, il ne mérite pas le salut celui-là ou celle-là. Non. Frères et sœurs, tout le monde mérite le salut. Et Dieu veut qu'ils se repentent, ceux qui sont méchants. Le désir de Dieu est de sauver tous les hommes. Et nous pouvons être certains que intercéder pour leur salut est un acte pleinement agréé par le Seigneur. Et là, c'est important parce que Dieu tient donc de notre intercession pour accorder le salut aux hommes. Il tient compte de nos prières. Et au verset 5 et 6, Paul explique la raison qui doit pousser l'Église à prier pour le salut de tous les hommes. Il dit « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur, Jésus-Christ. » Le fait qu'il y ait un seul Dieu implique qu'il est le Dieu de tous les hommes, sans exception. Tous auront à lui rendre compte. Tous dépendent de lui. Tous ne peuvent recevoir le salut que par lui. C'est pourquoi il est la responsabilité de l'Église de prier pour tous les hommes. Et par ailleurs, de même qu'il y a un seul Dieu, Paul dit aussi, de même Dieu a désigné un médiateur unique entre lui et les hommes pour recevoir le salut, Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il n'a pas dit « Je suis un des chemins, une des vérités ». Il a dit « Je suis le chemin ». Il est le seul chemin qui mène vers Dieu, le seul qui nous les fait connaître, le seul qui nous a réconciliés avec lui en donnant sa vie en rançon pour tous. Donc, en dehors de Jésus, pas de salut. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est Actes chapitre 4, verset 12. Et puisque Jésus est le seul moyen de salut, l'Église a la responsabilité de le faire connaître à tous les hommes sans exception, non seulement par son témoignage, le témoignage de l'Église, mais aussi par leur intercession, par l'intercession en faveur des personnes. Prions-nous assez, frères et sœurs, pour le salut des hommes, de notre famille, de nos voisins, de ceux qui travaillent avec nous, de nos autorités. Une autre raison aussi pour laquelle l'Église est amenée à prier, c'est pour vivre en paix. Nous prions afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Par ce passage, Paul veut dire que l'exercice correct de la responsabilité des autorités politiques est essentiel pour la vie de tous les jours, pour la vie du citoyen, pour sa vie religieuse également. Et ça veut dire que nos prières peuvent donc contribuer à la paix dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, voire dans notre monde. Et donc il y a là quelque chose d'assez remarquable. Dieu peut donc utiliser nos prières pour sauver des êtres humains, mais aussi pour faire basculer des orientations politiques, pour changer le cours de l'histoire d'un pays. Par la prière, nous pouvons atteindre tout le monde, ceux qui sont loin de nous, géographiquement, ceux qui paraissent inaccessibles à cause de leur rang social, par exemple. Mais par cette prière d'intercession, nous pouvons atteindre tout le monde, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Par la prière, ce que nous pensons être humainement impossible peut devenir possible. Donc, quelque part, nos prières peuvent être des actes révolutionnaires. On dit que la chute du mur de Berlin en 1989 a été le fruit de prières inlassables, de plusieurs personnes qui ont intercédé, notamment d'un pasteur qui réunissait régulièrement des personnes pour prier en faveur des autorités allemandes, pour leur salut, mais aussi pour l'unité du peuple allemand. Et c'est finalement arrivé. Nos prières peuvent être révolutionnaires. Alors en conclusion, chers amis, nous allons bientôt participer au village des associations, n'est-ce pas ? Vous êtes certainement au courant de cela, ça va se passer le 9 septembre, et je salue en passant le travail remarquable de ceux qui ont conçu des outils de communication. Suivez mon regard, je crois que c'est surtout Nathalie, les affichettes, les kakémonos, je crois qu'il y en a un qui est dressé à la sortie de l'église. Hein. Voilà, je salue aussi le comité d'évangélisation, il y a Clément, il y a Michael, je crois qu'il y a Mathieu aussi, qui ont préparé donc un projet pour animer le stand. Ce sera une occasion de faire connaître notre assemblée, surtout de faire connaître l'Évangile. Aux Palaisiens, il sera important de bien préparer cet événement, bien sûr, sur le plan logistique, communication, etc. Il sera important d'avoir des personnes aussi qui tiennent le stand, et je viens de voir l'inscription au stand, donc qui est là. Il y a donc tout cet aspect assuré, mais la chose la plus importante, c'est d'abord de passer du temps à prier ensemble. Prier pour tous les Palaisiens, prier pour Monsieur le maire, prier pour tous ceux, toutes celles que le Seigneur mettra sur notre route. Alors, on ne peut que se réjouir de l'existence dans notre église de Palaiseau d'un groupe d'intercession, d'un temps d'intercession le dimanche matin avant chaque culte. Et notre souhait, c'est que le plus grand nombre se sente appelé à prier, à persévérer, non seulement pour des événements ponctuels, mais tout au long de l'année. Le thème de notre prochain week-end d'église, qui se déroulera le 15, 16 et 17 septembre prochain, avec Étienne Lermenot, sera principalement axé sur la prière aussi. Et nous espérons que ce sera une impulsion pour toute l'année 2017-2018 au moins, afin de prendre conscience en tant que chrétien, en tant qu'Église, de notre responsabilité de prier, de faire de la prière notre priorité, la priorité de notre Église. Et nous continuerons aussi à programmer, une fois par trimestre, pour l'instant, une soirée de prière à laquelle toute l'Église sera invitée à participer. Et dès ce mardi aussi, dans nos groupes de maison, eh bien, nous sommes encouragés à programmer un temps conséquent de prière, d'intercession. Le Seigneur Jésus, il affirme en Matthieu 9, 37, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jésus n'a pas dit « Voilà, la moisson est grande, donc Dieu va envoyer des ouvriers. » Il demande plutôt à ses disciples de prier, afin que Dieu envoie des ouvriers. Ça veut dire que Dieu fait dépendre son œuvre en fonction de la prière de celles et ceux qui veulent se consacrer à ce ministère. Dieu veut s'associer avec l'homme. Dieu veut tenir compte de ses prières. Il y a des choses que Dieu ne fera pas si nous ne les demandons pas dans la prière. Prier, frères et sœurs, n'est jamais une perte de temps. Elle doit être, au contraire, au sommet des activités de notre Église. Et pour terminer, j'aimerais vous laisser avec cette phrase d'un frère qui s'appelle Ian Newberry, pour ceux qui connaissent, un Britannique avec un accent délicieux. Il a osé écrire sur un DVD, un DVD qui s'intitule « Envie de prier », que vous avez peut-être vu. Il a dit: une église qui prie, c'est la plus grande puissance du monde. Il y a des puissances économiques, etc. Mais une église qui prie, c'est la plus grande puissance du monde. Et je pense qu'il n'a pas tort. Prions. Seigneur, merci pour ce message, ce rappel, Seigneur, de l'importance de la prière. Et je dois personnellement confesser, Seigneur, que je ne prie pas assez, que je ne suis pas assez persévérant dans la prière. Et Seigneur, suscite en nous vraiment cette envie de prier. C'est toi qui nous le demandes, Seigneur, dans ta parole. En priant, nous ne faisons qu'obéir à ta parole. Que notre Église puisse ainsi, Seigneur, obéir à ta parole aussi et prendre le temps de prier, faire de la prière vraiment sa priorité. Merci Seigneur de, par ton esprit, d'agir en nous, afin que nous ayons à cœur vraiment de prier pour tous les hommes, comme nous demande ta parole ce matin. Tous les hommes, notamment les autorités qui sont en place. Ainsi Seigneur, nous prions pour les autorités qui gouvernent ce pays, pour le président de la République, pour le Premier ministre, mais aussi pour tous les maires, notamment le maire de Palaiseau aussi Seigneur. Te prions pour lui aussi. Que tu touches les cœurs de ces autorités. Merci Seigneur, parce que tu veux nous faire des collaborateurs avec toi. Nous te louons, nous t'adorons de tout notre cœur dans le nom de Jésus. Amen.